J'ai l'ambiance congolais à 16 ans avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, Cour pénale internationale. Au troisième jour du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo, certaines ONG nationales et internationales, notamment la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH, saluent ce premier procès organisé contre des responsables présumés des crimes sexuels perpétrés dans le cadre d'un conflit armé. Comment se déroule ce procès et quel pourrait être son impact dans la réduction des violences sexuelles commises en RDC? Nos invités deux sont en ligne. Jean-Pierre Kilinda, avocat de Mathieu Ngoudjolo, il intervient à partir de La Haye aux Pays-Bas. Bonsoir maître.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, et vice-président de la Fédération internationale de ligue de droits de l'homme, FIDH. Il est également à La Haye en train de suivre ce procès. Bonsoir, Dismas.
Bonsoir.
Professeur Tshibangu Kalala, lui, il est avec moi dans ce studio. Il est député national et professeur de droit international à l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Au troisième jour du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo à la Cour pénale internationale, certaines ONG nationales et internationales, notamment la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH, salue ce premier procès organisé contre des responsables présumés des crimes sexuels perpétrés dans le cadre d'un conflit armé. Notez que les juges de la Cour ont autorisé 345 personnes, dont 10 enfants soldats, à participer en tant que victimes à ce procès. C'est la deuxième affaire qui s'inscrit dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, après celle de Thomas Lubanga Diilo, dont le procès s'est ouvert le 26 janvier 2009 devant la chambre de première instance 1. Pascal Masirika nous parle du déroulement du deuxième jour de ce procès où le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a eu l'occasion de revenir sur les charges retenues contre les deux chefs de milices congolais.
Dans sa déclaration liminaire, le magistrat a indiqué que les deux accusés, Germain Katanga, 31 ans, et Mathieu Ngoudjolo Touy, 39 ans, sont responsables de certains crimes les plus graves. Ils ont utilisé des enfants comme soldats, ils ont tué plus de 200 civils en quelques heures, ils ont violé des femmes, des filles et des femmes âgées, ils ont pillé le village de Bogoro et transformé des femmes en esclaves sexuels. Toujours selon Luis Moreno Ocampo, cité par l'agence France Presse, le plan des deux co-accusés visait à effacer totalement le village de Bogoro. Pour leur part, Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo Touy ont confirmé qu'ils plaidaient non coupables. L'accusation a indiqué par ailleurs que plus d'un millier de combattants des ethnies Lendu et Ngiti de la force de résistance patriotique en Ituri FRPI de Germain Katanga et du Front des nationalistes, intégrationnistes et FNI de Mathieu Ngoudjolo Touy avaient participé à cette attaque du village de Bogoro en 2003.
Merci Pascal Masirika. Jean-Pierre Kilinda, vous êtes avocat de Mathieu Ngoudjolo. Pascal Masirika nous a présenté le déroulement de ce procès au deuxième jour. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Comment se déroule-t-il?
Bien, le procès se déroule très bien. Comme il a été rappelé tout à l'heure, il y a eu les déclarations liminaires, tant de l'accusation que de toutes les autres parties et participants, c'est-à-dire les représentants légaux des victimes et les deux équipes de défense. Le procès se déroule bien. Aujourd'hui, c'était le tour du premier témoin qui a été interrogé par le procureur. Certainement que dans les jours qui suivent, demain ou après-demain, ce premier témoin sera contre-interrogé par les deux équipes de défense.
Jean-Pierre Kilinda, le procès se déroule bien, mais dans quel état d'esprit se trouve Mathieu Ngoudjolo, votre client particulièrement?
Bien, Mathieu Ngoudjolo tient à ce que la vérité dans cette affaire dite du massacre de Bogoro éclate, que toutes les responsabilités puissent être établies par la Cour. Dans quel état d'esprit il est? Bon, il est animé par le souci de contribuer à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire à dire au juge ce qu'il sait de cette affaire et à faire en sorte que tous les éléments recueillis puissent concourir à la manifestation de la vérité. Voilà. C'est la raison pour laquelle c'est un monsieur qui, depuis que je l'assiste, lit son dossier, il prépare ses éléments, de manière voilà, à contribuer à la manifestation de la vérité, je trouve.
Dites-moi, Kitenge, vous assistez également à ce procès à La Haye, aux Pays-Bas. Dans quelle ambiance se déroule-t-il?
Merci beaucoup. Le procès se déroule dans un climat de sérénité, hors de toute tension politique, sociale et d'animosité. Vraiment, on voit que toutes les parties au procès gardent leur calme et chacune essaye d'user des arguments fondés sur le droit pour faire prévaloir ses arguments. Ça, c'est vraiment un élément très positif. Un autre élément positif, c'est que on voit que il y a vraiment le respect de toutes les normes liées au procès équitable et juste et qui sont d'application maintenant, puisqu'on a vu les déclarations liminaires qui ont été données. Donc, c'est un élément qui est assez de nous satisfaire.
Donc,
puisque ces éléments, c'est qui essaie aussi de nous satisfaire en tant que ONG de défense des droits humains, c'est que c'est pour la première fois que cette Cour pénale internationale, dans ce procès, va examiner les crimes sexuels qui sont retenus parmi les charges qui sont imputées aux deux prévenus, c'est-à-dire Mathieu Ngondjolo et Germain Katanga. Et ça, les crimes sexuels qui sont une violation grave des droits humains, du droit international humanitaire, qui est commise à grande échelle dans notre pays, ça ne peut que nous réjouir que cette haute juridiction internationale puisse statuer là-dessus. C'est un élément qui peut contribuer à satisfaire les victimes, les nombreuses victimes de ces actes qui sont ici représentées symboliquement par les 345 victimes qui tiennent part à ce procès.
Professeur Kibango Kalala, vous suivez également ce procès. Bismas Kitenge dit que tout a été mis en œuvre pour que ce procès soit crédible. Qu'est-ce que vous vous dites concernant son déroulement?
Oui, merci bien. Monsieur Wong, mais d'abord un petit mot de satisfaction. Je note que Jean-Pierre Kilende, qui est un ami personnel et un copain de classe, on a commencé à lui laisser le même jour, on a tenu le même jour, et bien, il est là, en train de descendre les journées, donc ça fait plaisir.
Voilà, maintenant, la parenthèse est refermée.
Maintenant, j'arrive à la question que vous avez posée. Maintenant, vous avez la preuve, monsieur Jérôme, de la différence entre ce qu'on appelle la justice des vainqueurs et la justice vraiment indépendante.
C'est-à-dire?
Après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place le procès de Nuremberg, le célèbre procès de Nuremberg. Et ce procès était organisé par les vainqueurs, ceux qui avaient vaincu Hitler et battu toute son armée. Ils ont mis en place justice, en fait, pour se faire justice à eux-mêmes. Mais ici, voyez-vous, nous avons une justice internationale, indépendante. La Cour pénale internationale, c'est une organisation internationale, dont à peu près plus d'une centaine de pays sont membres. Et cette organisation a des règles et des procédures qui font que la justice doit s'élaborer de manière sereine. Et là, nous sommes au cœur d'un principe fondamental de justice internationale, ce qu'on appelle le principe d'un procès équitable. Eh bien, les parties, toutes les parties, les accusés, les accusateurs, tout le monde est mis en position de faire valoir ses arguments dans la sérénité, sans pression aucune.
C'est aussi une parenthèse. Hein. Beaucoup auraient souhaité que ce procès se déroule ici.
Oui, beaucoup auraient souhaité, mais tout le problème est de savoir si notre pays a suffisamment de moyens ou avait des moyens de mener des enquêtes nécessaires et pour pouvoir mettre la main sur ces criminels et les juger convenablement. C'est vrai, il y a une règle fondamentale dans le statut de Rome qui dit que les tribunaux, ou si je voulais la Cour pénale internationale, est complémentaire de l'action qui doit être menée sur le plan national. Ce n'est que si les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure de démener le procès, qu'en ce moment-là, la Cour pénale internationale peut prendre le relais. Et nous en sommes là aujourd'hui.
Maître Jean-Pierre Kilenda, il y a cet auditeur Raph Luaba de Lubumbashi au Katanga qui dit « Pourquoi tous les procès des miliciens congolais semblent se dérouler avec une certaine lenteur alors que ceux des autres s'accélèrent ?»
Je ne sais pas. Le procès de... Quel est d'après lui le procès qui se déroule avec beaucoup de lenteur?
Bon, je crois qu'il doit faire allusion à celui de Thomas Lubanga notamment.
Mais tout à l'heure, mon ami et condisciple, le professeur Tshibangu, que je salue en passant, je suis très sensible aux mots si gentils qu'il a prononcés à mon égard, vous a rappelé que nous étions là au cœur d'un procès équitable. À mon avis, je ne pense pas que le procès de M. Lubanga se déroule en retard, ou disons avec beaucoup de lenteur. C'est, rappelez-vous que M. Lubanga a été poursuivi initialement pour enrôlement et conscription des enfants soldats, et le fait d'avoir fait participer ces enfants soldats à des hostilités, il est apparu au cours de l'instruction d'audience d'après la chambre qui le juge que plusieurs chefs d'inculpation devraient être retenus à son encontre. C'est la raison pour laquelle, respectueuse de la procédure, la chambre a dû ajouter d'autres charges. Et donc, pour le moment, à ma connaissance, le temps est donné à M. Lubanga et à ses avocats de préparer sa défense relativement aux nouvelles charges qui ont été ajoutées. Donc, il ne faut pas qu'on y voie une certaine lenteur. C'est simplement le souci du respect de la procédure. Et je note d'ailleurs que s'agissant de M. Lubanga, plusieurs organisations de droits de l'homme avaient jugé insuffisantes à l'époque les charges qui avaient été retenues contre lui. Et ces ONG réclamaient effectivement qu'il y ait plusieurs charges au lieu de se limiter à l'enrôlement et à la conscription des enfants soldats. Donc il n'y a pas de retard. Les statuts de Rome donnent la possibilité à l'accusé d'avoir le temps nécessaire et les facilités qu'il faut à la préparation de sa défense. Et c'est ce qui est en train exactement de se passer et qui est au cœur de ce que le professeur Tshibangu vient de rappeler, au cœur du procès équitable. Qu'est-ce qui arriverait demain si l'occasion n'était pas donnée à M. Lubanga d'affûter ses armes et de préparer sa défense selon les canaux procéduraux prévus par le statut de Rome? Alors, donc je ne pense pas qu'il y ait lenteur.
Maître Jean-Pierre Kilenda, revenons à Mathieu Ngouzolo et Germain Katanga. Est-ce vraiment une première que la Cour statue sur les crimes sexuels?
Oui, c'est une première que la Cour statue sur les crimes sexuels, mais je tiens à préciser aussi, si vous avez lu la décision confirmative de charge, il n'est pas reproché à M. Mathieu Ngouzolo et à M. Germain Katanga d'avoir eux-mêmes procédé à des viols ou à des actes d'esclavage sexuel. Il leur fait grief en tant que plus haut commandant militaire de leurs organisations respectives d'avoir dépêché des militaires sur le terrain, tout en sachant que dans le cours des événements, les viols et l'esclavage sexuel allaient survenir. Donc on leur fait grief d'avoir eu un contrôle sur les crimes. Et c'est pour cela justement qu'ils doivent se défendre.
Dismas,
c'est une première que la Cour juge les crimes sexuels, c'est une première et on verra.
Dismas Kitenge, votre point de vue.
C'est une première, comme je l'avais dit, puisque c'est le deuxième procès qui a commencé après celui de Thomas Lubanga qui est à l'instruction. C'est le deuxième procès, et c'est dans ce deuxième procès où il est reproché, entre autres, c'est-à-dire parmi les charges qui sont retenues contre M. Mathieu Ngouzolo et Germain Katanga, il y a les crimes sexuels, c'est-à-dire le fait d'avoir, non pas par eux-mêmes, mais en tant que chef hiérarchique, en tant que chef de mouvement supérieur hiérarchique, en tant que commandant, avoir laissé commettre ces hommes, laissé commettre par ces hommes ces crimes de viol ou d'esclavage sexuel ou autre forme encore de violence sexuelle, et c'est pour cela qu'ils sont poursuivis. Et je disais que c'est dans ce deuxième procès que nous avons ce crime-là, et au regard de l'ampleur de ce crime sur le terrain, c'est un élément positif. Un deuxième élément positif, je l'ai parlé quand j'ai pris la parole pour dire qu'il y a vraiment un respect des normes d'un procès équitable et juste. Et nous l'avons vu, et nous le voyons encore, que toutes les parties disposent de possibilités pour présenter leurs arguments en toute sérénité et dans le respect des règles. Et ça, c'est un élément fondamental. Ce qui est un élément aussi fondamental pour la justice internationale, il faut dire que sur ce point-là, la Cour pénale internationale innove, contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, les deux tribunaux pénaux internationaux que nous avons eus, le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où les victimes ne participaient pas. Là, les représentants légaux des victimes sont là. Et les victimes elles-mêmes aussi se sont représentées à travers leurs représentants, ont la possibilité de présenter leurs préoccupations et leurs vues au juge, au tribunal. Ça, c'est un élément aussi fondamental. Un autre élément fondamental, contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, c'est qu'il y a le mécanisme de réparation qui est prévu pour les victimes. Ça, c'est aussi la Cour pénale internationale qui innove. Et nous sommes en train de penser que ces jugements, comme celui de Thomas Lubanga ou celui qui est en cours d'instruction maintenant, aboutira dans sa décision si M. Ngudjolo et Germain Katanga sont reconnus comme coupables, le jugement va donner la possibilité de réparation pour les victimes. Et ça aussi sur le plan de la justice internationale, en tant que juridiction internationale, ça c'est une nouveauté.
Merci.
Plus que ça, ce qui nous réjouit également dans ce procès, c'est que vous le savez très bien, la CPI, la Cour pénale internationale, dispose d'un fonds au profit des victimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les victimes qui participent aux procédures qui peuvent avoir la possibilité de bénéficier de ces fonds, même il y a d'autres victimes qui ne participent pas, mais en tant que telles, si elles sont reconnues, elles peuvent avoir la possibilité de bénéficier de ces fonds sous forme de ce qu'on appelle la réparation collective.
Merci.
Et là, la Cour est en train déjà de mettre en marche cette possibilité-là, en marche du procès.
Merci.
Et tout ça, ce sont les nouveautés, les innovations de la Cour pénale internationale en tant que juridiction internationale indépendante.
Merci, Dismas. Professeur Kibango Kalala, votre commentaire sur les trois innovations énoncées par Dismas Kiteng.
Oui, c'est vrai que c'est une avancée, parce que dans le cadre, on l'avait critiqué, justement, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qu'on ne voyait pas très bien la place de la victime, mais tout cela, parce que ça posait un problème de financement, tout ça, c'est bien. Il faut sortir de l'argent, il faut indemniser les victimes. Bon, et maintenant, c'est une question qui a été prise en compte. Au moment où on a créé la Cour pénale internationale, le statut de Rome, et puis tous les États, parce que ce sont les États qui sortent de l'argent, les États ont trouvé que c'était tout de même nécessaire d'examiner la possibilité d'indemniser les victimes et de trouver aux victimes une place dans le cadre du procès. Donc c'est une avancée notable. Ça ne sert à rien de faire un procès, il y a des victimes, et puis les victimes n'ont pas la possibilité d'obtenir réparation des dommages qu'ils ont subis. Mais ce qui est, j'aimerais souligner ici, c'est qu'il faut d'abord dire aujourd'hui que M. Ngudjolo ou Katanga, les deux, sont encore des innocents. Il faut insister sur la présomption
coupable.
Il faut insister sur la présomption d'innocence. C'est à la fin du procès que le juge va décider clairement pour savoir qui y est coupable et qui ne l'est pas. Donc ça c'est une autre précision, c'est à propos des crimes sexuels. Il faut souligner que dans le cas des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie pour le Rwanda, on a pu quand même déjà examiner ce problème de violences sexuelles, etc. Et c'était beaucoup plus grave au Rwanda, par exemple. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça.
Donc, ce n'est pas tellement une nouveauté.
C'est pas une nouveauté. Et c'est dans le cas, d'ailleurs, je me rappelle bien le procès de Anto Forondija pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est là, pour la première fois, justement, on a considéré des crimes sexuels, des viols, comme des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Donc, c'est vrai que dans le cadre de la CPI, c'est la première fois qu'on ouvre ce dossier des crimes sexuels.
Alors, la CPI a établi des mécanismes de réparation pour les victimes. Il y a Emmanuel Vukali de Béni-au-Nord qui vous demande, professeur, si les présumés responsables des crimes, c'est-à-dire Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, étaient innocentés, seraient-ils dédommagés à leur tour?
Bon, c'est vrai que c'est tout des débats. On trouve cela même dans le cadre des droits internes. Hein. Parfois, il y a des Congolais qui sont gardés en détention provisoire, pendant une année, pendant deux ans, le procès n'est pas organisé, et au bout de trois ans, on vous dit, écoutez, vous êtes libéré, rentrez chez vous à la maison. Quelqu'un a perdu trois années de sa vie en prison, soit des années de permis de contraction, et puis après, on constate qu'il était innocent, on le libère. On l'a vu dernièrement en France, par exemple. Et donc, c'est vrai que pour le moment, cela n'est pas encore prévu comme tel, mais c'est un débat. Imaginez-vous, prenons le cas de Jean-Pierre Bemba. il peut rester là-bas pendant 5 ans, 6 ans, et au bout de 6 ans, il dit, monsieur, vous êtes innocent, rentrez à la maison. Mais il a perdu 6 ans de sa vie. Donc, c'est tout un débat aussi qu'il faut regarder pour dire, bon, écoutez, tous ces gens, qu'est-ce qu'on va faire? Victime, oui, mais lui aussi, il devient maintenant victime aussi, parce qu'il a été poursuivi de manière arbitraire, et fantaisiste, sans éléments précis, sans preuves convaincantes, mais maintenant, il est en difficulté. Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Mais je vais souligner, M. Roux, parce que j'ai la parole. Ici, encore une fois...
C'est moi qui la donne.
Bien sûr.
Vous l'avez.
Ici, il y a encore un principe fondamental qu'il faut rappeler à l'attention de tous nos compatriotes. Voilà. Nous sommes au cœur d'un principe fondamental du droit international pénal, c'est la responsabilité du chef hiérarchique. Si vous avez le commandement de l'armée, des troupes, des milices, si les hommes qui sont sous votre commandement, votre autorité, vont sur le terrain, ils commettent des infractions graves, eh bien, monsieur, même si vous-même, vous, le chef, vous n'êtes pas physiquement sur le terrain pour donner des ordres, eh bien, vous êtes responsable des crimes commis par vos hommes et vous pouvez en répondre devant la justice.
Maître Jean-Pierre Kilenda, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, brièvement, vous avez dit qu'aujourd'hui, le premier témoin a été entendu. Quelle est la suite de la procédure?
Le premier témoin a été entendu, la parole a été donnée à l'accusation, c'est-à-dire au procureur, parce que c'est un témoin du procureur, et donc, d'après la procédure, il appartenait au procureur de l'interroger. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire en chef. Et lorsque évidemment, pendant cet interrogatoire en chef, les équipes de défense ont la possibilité, elles ont le droit de faire des objections. Mais en tout cas, aujourd'hui, le rôle principal a été joué par le procureur. Et donc, lorsque le procureur aura fini son interrogatoire en chef, ce sera au tour de deux équipes de défense de contre-interroger le témoin. Et donc, demain, nous allons poursuivre avec l'interrogatoire en chef du procureur. Et certainement que lorsqu'il aura fini, chacune des deux équipes de défense aura l'occasion de contre-interroger le témoin.
Merci à Maître Jean-Pierre Kilenda. Deuxième partie de cette émission, quel pourrait être l'impact de ce procès dans la réduction des violences sexuelles commises en RDC? Plusieurs raisons font que ce procès n'aura qu'un impact limité sur les violences sexuelles commises en RDC. C'est ce qu'affirme Maître Guy Mouchata, chargé de programme lutte contre l'impunité à l'ONG Centre international pour une justice transitionnelle. Il précise que parmi ces raisons, il y a notamment la guerre qui sévit encore à l'est de la RDC et l'impunité à l'endroit de certains responsables des crimes des viols. Maître Guy Mouchata a été joint au téléphone par Guy Maté.
Je pense qu'à mon avis, ce procès aura un impact suffisamment limité pour des raisons qui sont évidentes. D'abord, que les conditions qui ont amené à ce que le viol aujourd'hui soit commis avec une grande ampleur en République démocratique du Congo n'ont pas encore été éliminées. Je vais parler de la guerre. En plus, de nombreux responsables de ces crimes de viol qui ont été commis comme armes de guerre ne sont jamais poursuivis. Donc le cas Ngoudjolo et Germain Katanga reste un cas limité qu'il faut nécessairement pour faire prévaloir les droits des nombreuses victimes de viol, arriver à poursuivre les autres criminels qui sont encore en liberté. Et les auteurs qui ont amené cette pratique de viol comme arme de guerre, et je vais parler principalement du rôle qu'a joué l'Ouganda dans le cadre de ce qui s'est passé et pour lequel Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo sont poursuivis aujourd'hui, pourquoi responsable ougandais ne se trouve aujourd'hui poursuivi? Par conséquent, vous pouvez conclure avec moi que, du point de vue de la lutte contre l'impunité des crimes de viol, ce procès aura vraiment un impact limité.
Dismas Kitenge, au venez de suivre Maître Guy Mouchata, pour lui, ce procès n'aura qu'un impact limité sur les violences sexuelles en RDC. Partagez-vous ce point de vue?
Pour moi, je dis que ce procès peut avoir un impact, peut avoir une contribution symbolique et stratégique importante dans la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Pour les raisons suivantes, sur le plan national. Sur le plan national, d'abord, à ce qui concerne sur le plan juridique, il faut reconnaître que si le jugement est rendu, quand le jugement sera rendu, ce jugement peut être utilisé sur le plan de la jurisprudence par les tribunaux congolais, ce qui pourrait aider sur le plan juridique à faire avancer également notre droit. Sur le plan juridique, c'est aussi un exemple très intéressant sur le plan de respect des normes. d'un procès juste et équitable. Nous allons voir comment les droits de la défense sont respectés par la participation des victimes. Ça, c'est aussi très important, sans oublier que la RDC est dotée maintenant de deux lois de répression contre les violences sexuelles, et ces deux lois sont inspirées du statut de Rome. Et ça, c'est aussi un exemple. Ce procès est très attendu sur le plan des droits dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier également que sur le plan moral et psychologique, c'est un réconfort important pour les victimes. Pour les victimes qui attendent finalement que, sur le plan international, pour les crimes internationaux, qu'il y ait quand même la répression des crimes de violence sexuelle, entre autres. Sur le plan social, ça peut contribuer à dissuader le violateur potentiel des crimes internationaux et des crimes sexuels au plan national. Sans oublier sur le plan politique. Sur le plan politique, ça peut contribuer à renforcer la volonté politique. La volonté politique est insuffisante au Congo pour lutter contre l'impunité et aussi en particulier contre les crimes sexuels. Ça peut nous aider, et ça peut aider le gouvernement congolais à voir, dans la mesure du possible, comment davantage rentabiliser les résultats qu'on a eus et essayer de corriger les insuffisances sur le plan juridique et même sur le plan politique. Ça aussi, un aspect pédagogique aussi bien pour le praticien du droit, de s'inspirer de ce qui se passe à la Haye aujourd'hui à la Cour pénale internationale, mais sur le plan pédagogique aussi, pour le praticien du droit, pour qu'il y ait le souci de respecter le procès, le principe d'un procès juste et équitable. Sur le plan international, vous savez qu'on parle de plus en plus de questions de violences sexuelles, et la République démocratique du Congo est suffisamment citée comme un pays où sévit ces crimes-là, ça peut créer également une volonté politique qui doit être accompagnée des moyens concrets que la communauté internationale devra mettre en place pour permettre au Congo de faire face à ça. Mais comme disait aussi Maître Guy Mouchia, que je connais bien, pour dire que sur le plan international, puisque les causes des conflits armés que nous avons ne sont pas que d'ordre interne, mais aussi des causes internationales, et la communauté internationale devra s'engager non seulement à mettre le moyen pour lutter contre ces phénomènes au niveau national et international, mais aussi à endiguer les causes externes ou internes qui sont à la base de ces conflits armés qui sont caractérisés par des violences.
Merci, Bismas. Avant de donner la parole au professeur Kibangu Kalala, je vais rappeler quelques chiffres sur les violences sexuelles. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ces violences, les violences faites aux femmes, un rapport a été publié hier mercredi par l'ONG Action contre l'impunité et les droits de l'homme, ACIDH. Et ce rapport indique que 3135 cas de violences sexuelles ont été répertoriés dans la ville province de Kinshasa et à Lubumbashi au Katanga. Sur les 407 cas répertoriés uniquement dans la ville de Lubumbashi, 4 seulement ont été instruits dans le respect du délai légal, et sur les 2728 cas recueillis dans la ville province de Kinshasa, 121 cas seulement ont été instruits. Professeur Kibangu Kalala, est-ce que ce procès pourrait aider à réduire les violences sexuelles en RDC?
Oui, M. Irung. Là, nous sommes au cœur d'une controverse qui est restée presque permanente dans les débats entre intellectuels. Prenons un exemple. Est-ce que la peine de mort contribue à la réduction des infractions? Parce qu'on a même constaté qu'au moment où on est en train de pendre quelqu'un, typiquement sur la place publique, il y a des voleurs qui sont en train de frayer les sacs de sable pour pouvoir voler l'argent.
Voilà. Donc, là, je considère que vous réfléchissez à haute voix et vous pouvez maintenant répondre à la question.
Et donc, maintenant, c'est ça le problème. Est-ce que le fait de poursuivre Germain Katanga, Ngodjolo, à l'AE, est-ce que tout cela va contribuer à la réduction des violences sexuelles dans notre pays? J'aimerais dire ceci, pas ce sujet. C'est vrai. Il y a une faiblesse qui est très claire. Parce que ceux qui sont poursuivis à l'AE, ce ne sont pas ceux qui ont commis ces violences sexuelles. Ceux qui commettent ces violences, ce sont des caporaux, des voyous, des délinquants qui sont en brousse dans les villages. Mais on est en train de poursuivre leurs chefs, qui eux-mêmes n'ont pas commis ces infractions. Ce qui fait que ce procès aura un impact réel par rapport aux chefs militaires, à tous ces mauvais garçons qui ont trouvé du plaisir et de la joie à monter des milices dans tout le coin du pays à un certain moment. Donc maintenant, ils sont devant leurs responsabilités. Ils savent désormais
que si vous êtes le chef d'une bande armée, d'une milice, qui commet des infractions, des violences sexuelles, eh bien, en tant que chef, on va vous poursuivre. Et donc, ça va jouer un rôle dissuasif, notamment pour les chefs. Mais je ne pense pas que cela pourrait jouer pour des voyous qui sont en pleine brousse, qui opèrent la nuit et qui violentent les femmes. Bon, ça, c'est de deux. Il y a aussi un aspect positif, c'est que, au moins, la lutte contre l'impunité est là. Elle se fait tant sur le plan interne que sur le plan international. Il faut que les gens sachent que ceux qui sont poursuivis à la haine, ils sont poursuivis pour avoir commis les crimes les plus graves. Ils sont considérés comme des ennemis de l'humanité. Et ces gens, ces crimes-là sont des crimes qui sont imprescriptibles. On peut les poursuivre pendant 100 ans, on peut les poursuivre. Et donc, ce procès de la haine joue un rôle très important en tant qu'outil pédagogique, dissuasif, pour que les uns et les autres qui sont impliqués dans ces actes de violence sachent qu'un jour, la justice, aussi bien nationale qu'internationale, pourrait les rattraper. Mais encore une fois, c'est un combat de longue haleine, ce n'est pas du jour au lendemain que tous les criminels vont disparaître si jamais on est dans cette occasion. Et je termine par là pour dire qu'il faut savoir que tous ces crimes qui dénonçons aujourd'hui sont une conséquence de la guerre. Et donc il faut lutter, travailler d'arrache-pied pour essayer de mettre fin aux causes premières qui ont induit les violences sexuelles, à savoir la violence politique.
Deux réactions des auditeurs, professeur Tibango Kalala. Commençons par Ngiko Kabaka Gilbert de Goma en Nord Kivu qui dit « Ce procès n'aura aucun impact sur la réduction des violences sexuelles commises en RDC puisque d'autres qui ont commis des violences sexuelles et des massacres sont toujours actifs sur terrain et sont protégés dans l'armée congolaise et dans les institutions de la RDC. » Emmanuel Niji Ngomi de Lubumbashi au Katanga, ce procès n'aura pas d'impact sur la réduction des violences sexuelles tant que certains criminels seront toujours en liberté. Sur le plan interne, beaucoup d'ONG ont dénoncé une certaine léthargie dans la justice sur le plan interne.
Oui, c'est vrai. Il y a des problèmes réels, mais je n'ai pas personnellement de preuves que certaines personnes qui ont été accusées d'avoir commis des crimes, sexuels notamment, ces personnes ont été protégées, n'ont pas été poursuivies. C'est vrai qu'il y a le problème du fonctionnement de la justice militaire ou de notre justice en général dans notre pays. Les critiques sont connues. Mais je n'ai pas de cas précis où on peut dire telle personne ont été accusées pour avoir commis ces crimes abominables que nous condamnons, que nous préparons, et que ces personnes ont été protégées.
Mais il y a le cas de Bosco Ntaganda que beaucoup d'ONG nationales et internationales ont relevé.
Vous avez raison, et je dois être très clair là-dessus. Je vous donne mon avis personnel à ce sujet. Monsieur Bosco Ntaganda doit être remis à la Cour pénale internationale. Il n'est pas dit que Monsieur Ntaganda a commis toutes les infractions qu'on lui reproche. Il est toujours innocent. Mais dès lors que la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale, demande que cette personne lui soit livrée, remise par la RDC, je pense que notre pays doit absolument remettre ce monsieur à la CPI. Pourquoi ? Parce que l'État congolais est membre de la CPI. Nous avons ratifié le statut de Rome. Et nous devons respecter toutes les obligations que nous avons assumées au terme de ce certain intérêt. Il faut le faire. Mais attention, je dois préciser. La paix, dans certaines circonstances, prime la justice. Je répète, la paix peut primer la justice dans cette circonstance. Maintenant, la République démocratique du Congo peut dire, dans cette circonstance, dans certaines circonstances, elle ne peut pas livrer M. Ntaganda à la CPI.
Pour l'instant.
Oui, mais il ne faut pas faire des gesticulations politiques ici à Kinshasa. Il y a un endroit précis où le gouvernement congolais doit poser le problème, c'est à New York. C'est seul le Conseil de sécurité, en vertu de l'article 16 du statut de Rome, qui peut dire que compte tenu des circonstances, des menaces qui pèseraient sur la paix et la sécurité en RDC, seul le Conseil de sécurité peut demander au procureur de suspendre les poursuites contre Ntaganda. Tel que le Conseil ne l'a pas fait, eh bien, la RDC est dans l'obligation juridique de remettre ce monsieur à la Cour. Et la RDC doit aller au Conseil de sécurité pour plaider sa cause, obtenir que le Conseil de sécurité intervienne pour stopper le poursuivre. Autrement, ce monsieur doit être transféré Allez, maître Jean-Pierre Kilenda, avant que vous n'interveniez, je vais encore donner quelques chiffres. Le rapport de la CIDH que j'ai cité ici indique 4333 nouveaux cas enregistrés au Sud Kivu. Ces chiffres concernent la période allant de janvier à septembre 2009. Il y a également un rapport de Médecins du Monde qui dit que selon l'ONU, sur les 16 000 nouveaux cas recensés en 2008 sur l'ensemble du pays, 7 703 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans l'est de la RDC et 4 820 dans la seule province du Nord Kivu. Alors pensez-vous que ce procès auquel vous prenez part pourra réduire les violences sexuelles ici au pays?
Merci pour la question. Je voudrais vous rappeler tout d'abord que, avant de parler même du procès qui est actuellement organisé à la CPI, dans notre propre pays, il y a 3 ans, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, le tribunal militaire de garnison de Songomboyo, dans la province de l'Équateur, avait condamné aussi un groupe de militaires pour des violences sexuelles. Et les chiffres que vous me donnez ici, que vous diffusez à l'instant, c'est des cas qui se sont produits en République démocratique du Congo après la condamnation de ces militaires de Songomboyo. Donc c'est la preuve que la justice pénale nationale déjà n'a pas réussi à résoudre ce problème. Donc, je partage tout à fait le point de vue de mon confrère Guy Mouchata qui dit que ce procès aura un impact limité. À supposer même que les accusés actuellement à la barre devant la CPI soit condamné demain. Vous pensez que cela va résoudre le problème des violences sexuelles, que cela va réduire l'ampleur des violences sexuelles? Je ne crois pas. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est vraiment des mesures de prophylaxie criminelle.
C'est-à-dire
dans un stade, des mesures de prophylaxie criminelle, c'est-à-dire des mesures qui luttent contre les racines du mal.
Quelles mesures, par exemple?
Mais ces mesures sont de nature diverse et doivent être politiques. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a des collègues qui viennent de parler à l'instant des guerres qui sont notamment la cause de ces violences sexuelles. Mais tant que les pays étrangers qui ont monté des rébellions chez nous, les pays étrangers qui ont permis à ce que nos filles, nos femmes soient violées, les dirigeants de ces pays-là ne sont pas mis en cause. L'Ouganda, si vous avez suivi mon discours liminaire, des généraux ougandais ont de façon ostentatoire, de manière affichée, avec insolence, dirigé des opérations armées chez nous. Et au cours de ces opérations, nos filles, nos femmes ont été violées, avec des séquelles graves à l'heure qu'il est. Mais ces gens bien identifiés ne sont pas poursuivis. Et vous pensez que c'est la condamnation de Mathieu Goudjolo ou de Germain Katanga qui viendra résoudre ce problème? Donc il faut agir sur les causes du mal. Et ces causes sont politiques. Il faut qu'au niveau politique, on puisse faire en sorte que ce qui s'est passé au Congo ne se passe plus. Parce que ça choque. Je me rappelle qu'il y a quelques années, lorsque Saddam Hussein est allé occuper le Koweït, eh bien, la même communauté internationale qui réclame aujourd'hui la condamnation de Ngoudjolo et de Germain Katanga s'est mobilisée. Et je me rappelle qu'à l'époque, le président Mitterrand disait que les armes avaient parlé au nom du droit. Et pourquoi ne pas agir de la même manière au Congo, ou de manière vraiment criminelle, les troupes militaires étrangères viennent violer nos filles? Ce n'est pas en condamnant Mathieu Goudjolo ou Germain Katanga que sera résolu le problème des violences sexuelles.
Mais
donc, il faut agir au niveau politique, il faut agir au niveau médical, parce que je crois sincèrement que ces délinquants sexuels sont des malades, et il faut donner du travail à nos médecins qui puissent soigner ces malades.
Maître Kilenda,
c'est des pervers, il suffit. Il faut vraiment les soigner.
Mais
ce n'est pas... Je pense que c'est à la fois des mesures politiques, médicales, judiciaires, qui mises ensemble peuvent aider un tant soit peu à résoudre le problème de violences sexuelles. Ce n'est pas une condamnation isolée d'un seul individu ici ou là qui peut réduire l'ampleur de ce mal. Car c'est véritablement un mal.
Dismas Kitenge, il y a le commissaire européen à l'aide humanitaire, Karel de Gucht, qui a déclaré qu'il fallait que la CPI puisse non seulement juger les dirigeants des groupes armés en RDC qui recourent au viol comme arme de guerre, mais aussi de saisir des cas de certains violeurs à répétition. D'après lui, il est possible de, je cite, « retrouver des filières qui démontrent que des personnes font tout un trajet de violation ».
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire une chose qui me semble fondamentale, puisque lorsque j'avais dit, je l'ai soutenu encore, je le soutiens, que le procès de Mathieu Mugiolo, Germain Katanga est un procès symbolique et stratégique, et que ça peut contribuer à la lutte contre l'impunité des crimes de violence sexuelle, pour les différentes raisons que j'ai évoquées. Je n'ai pas dit que le procès en soi va réduire, mais va contribuer. C'est une des contributions parmi tant d'autres. Et j'ai démontré sur les différents plans de contribution, sur le plan juridique, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan pédagogique. Et j'ai terminé en montrant, en insistant sur le fait que la communauté internationale, d'où vient la justice, la Cour pénale internationale, a un rôle aussi à jouer dans ce phénomène. Et je l'ai démontré. Aujourd'hui, c'était aussi très important, lorsque j'attends le professeur Chibangu et maître Silenda, mais c'est très important de préciser que la Cour pénale internationale est complémentaire aux juridictions congolaises. Pourquoi aujourd'hui ce cas est déféré à la Cour pénale internationale? Alors que c'est le gouvernement congolais, les juridictions congolaises qui pourraient être compétentes pour les poursuivre et les juger. C'est puisqu'en fait, le gouvernement congolais a reconnu que, à l'état actuel de nos juridictions, nous n'étions pas à mesure de poursuivre correctement et efficacement ces personnes. C'est le gouvernement congolais qui a déféré les cas devant la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier ça. Il faut le rappeler. Et il faut qu'on évite un peu une dose de nationalisme. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est très important que la Cour pénale internationale puisse poursuivre cette personne, puisque le Congo l'a voulu en ratifiant et en déférant le cas devant elle. Mais deuxièmement aussi, la communauté internationale devra aider le Congo à construire son système judiciaire d'une manière efficace. Ça, c'est très important. Mais comme aussi Maître Kilenda et le professeur Chibangu l'ont dit ici, je suis d'accord sur ce point de vue. J'ai suivi la déclaration liminaire de Maître Kilenda. Sur ce point, j'étais d'accord avec lui. Et sur ce point, on a toujours interpellé la politique pénale du procureur. Il ne suffit pas seulement d'amener Mathieu Kungujolo, Germain Katanga, mais il y a aussi d'autres personnes. Par exemple, les Ougandais, les officiers ougandais qui étaient là. Il y a aussi un autre aspect très important de ces crimes, les personnes qui ont alimenté en armes et en argent les groupes armés pour commettre ces crimes-là, le procureur lui-même a toujours dit qu'il va s'intéresser. Alors c'est très important, c'est la communauté internationale dont fait partie la RDC, et la communauté en général internationale devra s'engager pour aider les Congolais à résoudre ce problème. Je l'ai dit, et ça devrait être tout à fait clair.
Merci Dismas, il nous reste une minute pour terminer l'émission, c'est déjà aussi votre conclusion. Maître Kilenda, votre conclusion également très brièvement.
Ben, très brièvement, je souhaite que le procès qui se déroule à La Haye se poursuive à ce rythme de respect mutuel de toutes les parties et de tous les participants, et que la justice soit faite. Et s'agissant des violences sexuelles, je voudrais vraiment qu'au niveau du pays, qu'il y ait une politique gouvernementale volontariste déterminée à combattre ce mal. Car c'est véritablement un mal, et je crois que nos juridictions, si elles ont les moyens de leur politique pénale, peuvent combattre ce mal à partir du Congo, car comme l'a si bien rappelé mon ami le professeur Chibangu, les juridictions, la Cour pénale internationale n'est que complémentaire des juridictions nationales.
Merci à Maître Jean-Pierre Kilenda. Je rappelle que vous êtes avocat de Mathieu Ngoujolo. Professeur Chibangu, en 15 secondes, votre conclusion.
Merci, monsieur Hong. Écoutez, j'aimerais dire ceci. Ces crimes sexuels abominables que nous condamnons tous se commettent sur les territoires congolais. Il est de la responsabilité principale de l'État congolais de combattre pour arriver à éradiquer les crimes qui se commettent sur son territoire. la communauté internationale, avec la Cour pénale, ne vient que juste pour donner un coup de main. C'est nous qui devons régler ce problème.
Merci, professeur Chibango Kalala. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Guy Maté a réalisé cette émission aidée de Samuel Kachak et Eddie Martis à la mise en onde sous la coordination de Martin Sebujangwe. Au revoir.